Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tu me donnes ton carnet immédiatement.
Silence!
Ils sont comment les gamins exactement?
Des imbéciles.
Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit, s'il vous plaît.
Assis! Debout!
Merci. La seule façon viable de faire ce boulot, c'est en aimant les gosses, et tu le sais.
À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue,
on y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés.
Tu conseilles avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite.
Silence ! Excellent travail. Peut mieux faire. Manque de concentration. Élève bavard. C'est la période des conseils de classe pour notre jeune prof de français. Agathe doit remplir des dizaines de bulletins et passer plusieurs soirées au lycée pour débattre entre collègues de l'attitude de tel ou tel adolescent. Résultat, des horaires à rallonge mais un salaire qui, lui, reste le même. Si Agathe est toujours aussi motivée, chaque année, certains profs décident de claquer la porte de l'éducation nationale avant même d'avoir été titularisés. Je m'appelle Alexandra Viera, je suis journaliste et vous écoutez le 6e épisode de Transmettre, la saison 2 de Sillage, le podcast des Écostarts. Bonne écoute!
T'as l'impression de passer ta vie au lycée quand t'es en conseil de classe. C'est-à-dire que tu finis tes cours à 17h05 et t'as ton conseil de classe à 18h05 et tu sors à 20h et... T'as l'impression de pas décrocher. D'un autre côté, ça fait un peu colonie de vacances avec tes collègues. C'est-à-dire que, au moins, dans l'adversité, ça rapproche. Donc, t'es en salle des profs et tu vois que les collègues qui vont avoir un conseil de classe. Parce que sinon, tout le monde est parti à 18h. Je t'avoue, le premier, j'avais une petite excitation. Je me disais, ah, c'est mon premier conseil de classe en tant que prof. Je sais pas comment ça se passe pour les autres établissements, mais là où je suis, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que pour aller plus vite, la prof principale fait un bilan général sur la classe. Et si on a des remarques à faire, on les ajoute, mais sinon on n'est pas obligé de parler, nous, en tant que prof lambda. Les parents d'élèves prennent la parole, font remonter certaines choses si les parents ont quelque chose à dire. Même chose pour les délégués. Donc là, pareil, au niveau des parents d'élèves, j'avais très peur d'avoir une remarque. Oui, on a eu des remarques sur la prof de français. Et je me disais, oh là là, ça va être la cata. Mais non, mais par contre, mon collègue de maths a eu une remarque. Du coup, je me disais, ah bah c'est pas moi. On lui a dit qu'il notait vraiment très dur et que c'était pas terrible pour les bulletins des élèves. Et bon, je t'avoue que je me suis dit, ah, c'est un petit peu bien fait quand même. En fait, il était à côté de moi et il arrêtait pas de m'enquiquiner en me parlant de trucs. Et même, il me disait, ah, c'est ton premier conseil de classe et tout. Et moi, je voulais pas que les élèves sachent que je suis stagiaire. Donc, j'étais, je répondais pas vraiment. J'étais juste à côté des délégués. Donc, ça m'énervait. Et du coup, après, il disait, ah, mais oui, c'est ton premier conseil de classe. Alors, il donne un coup de coude au prof d'à côté. Ah, c'est son premier conseil de classe. Et j'étais là, mais non, mais discrétion, c'est pas possible. Mais il faisait ça exprès pour m'embêter, tu sais, il sentait que ça me gênait. Puis il s'est pris une remarque des parents, il a moins rigolé. Et après, donc on passe au cas par cas. Donc la prof principale dit l'appréciation qu'elle a pensé mettre pour l'élève. Et après, on débat pour savoir si on met les compliments, les félicitations, un avertissement, pourquoi pas. Et si on a d'autres remarques à faire sur l'élève. Après, moi, comme je suis prof de français, souvent... On m'a demandé d'étayer une remarque ou d'appuyer certaines remarques qu'on pouvait faire. Par exemple, une prof principale va me dire donc oui, en français, tu es d'accord pour dire qu'il y a un bon travail d'analyse. Et là, je vais dire oui, effectivement, en français, j'ai remarqué aussi du travail, de l'investissement, des qualités d'analyse, ce genre de choses. Comme le français, c'est une matière principale, au moins ma voix porte.
Ça t'a fait quoi de sentir que ton opinion comptait vraiment en tant que prof de français ?
Bah, ça m'a fait bizarre parce que vraiment, je suis arrivée, je suis un peu la nouvelle, un peu timide, etc. Et en fait, on me demande mon avis tout le temps. Et non seulement on me le demande, mais on l'écoute. Et je me dis, ah, waouh, trop dingue. C'est-à-dire que je suis plus écoutée que les profs de sport, même profs d'anglais, allemand, russe, parce que, évidemment, moi, je les vois tout le temps, les élèves. Je suis une des celles qui les voient le plus. Donc, maths, histoire et français, c'est un peu la triade. Et du coup, j'avais une importance que je ne présumais pas. Là, tu vois, tout à l'heure, à un moment donné, j'ai fait une petite remarque. On pensait à mettre peut-être un avertissement travail, conduite à un élève. Puis moi, j'ai juste dit, je trouve que c'est un peu beaucoup. Et du coup, il n'en a pas eu. À un moment, j'ai dit, on parlait pareil, compliments ou félicitations pour une élève. Je dis, pour moi, c'est les félicitations. Et après, les collègues ont fait oui. Et tu sais, je me dis, trop dingue. Enfin, j'ai pas l'impression dans les débats d'avoir une voix qui porte autant. Mais là, j'ai la légitimité de mon statut de prof de français et c'est génial. Après, je t'avoue que j'ai du mal à faire remonter les aspects négatifs. Si par exemple tout le conseil de classe est d'accord sur le fait que tel élève est très sérieux et que dans mon cours il y a un petit peu de bavardage, je me dis, est-ce que je le fais? Parce qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a les délégués qui sont là. Après, tu passes un peu pour la prof méchante et... C'est pas que j'ai envie que les élèves m'apprécient ou quoi, ou que... Enfin, je veux juste être juste. Mais je me dis, s'ils me prennent en grippe parce qu'ils disent qu'en fait, elle fait des coups bas parce qu'elle le met pas sur le bulletin et après, elle le dit en conseil de classe, je me dis que là, effectivement, c'est pas très juste de ma part. De toute façon, moi, je vois surtout le positif chez les élèves, donc je vais être plutôt du genre à défendre un cas qu'à enfoncer un élève. Et puis, généralement, quand j'avais des points négatifs à aborder... Tout le monde était bien d'accord pour dire que c'était des points négatifs à aborder.
Des conseils de classe, t'en as déjà fait en tant que délégué quand t'étais à l'école. Là, d'être dans la peau du prof, comment c'était?
C'est un peu comme quand tu passes VIP à la cantine. Tout d'un coup, tu te dis, waouh, j'ai un statut, c'est fou. Et puis je sais pas, il y a une complicité que t'as avec tes collègues. Genre, tout d'un coup, tu remarques, mais en fait... on a tous les mêmes problèmes et toi aussi, il t'embête, truc muche en cours. Et tu fais des petites blagues avec tes collègues et franchement, c'est assez sympa parfois l'ambiance des conseils de classe. Parce que quand t'es délégué, tu te rends compte, t'as tous tes profs là en même temps. En plus, t'as soit le proviseur, soit le proviseur adjoint. Enfin, c'est stressant. Et les pauvres élèves, ils étaient tout mignons là. Ils avaient la voix qui tremblait quand ils prenaient la parole. J'étais, oh, c'est trop chou.
T'as dû remplir du coup des bulletins pour ce premier conseil de classe, c'était comment?
Remplir des bulletins, mais je pense que c'est la pire activité mais au monde. C'est-à-dire que je suis prof de français, je suis censée savoir écrire. Je me retrouve à devoir écrire des appréciations et je me dis, mais syndrome de la page blanche, je savais pas quoi mettre, j'étais là, Mais en plus, la toute première appréciation, je me suis sentie bête. Alors ce qui est bête parce que sur mes contrôles, je mets beaucoup d'appréciations. Mais là, je sais pas, je savais pas si je devais parler à l'élève parce que je regardais du coup les appréciations de mes collègues pour comparer. Il y en a qui parlent à l'élève. Tu dois t'améliorer. Non. Il y en a d'autres qui parlent de l'élève à la troisième personne. Emma doit faire ci, doit faire ça. Et parfois, c'est un mélange des deux. Alors, machin est sérieux. Non. Il faut persévérer dans ton travail. Là, mais c'est extrêmement bizarre, mais bon, c'est des codes des bulletins. Et alors au début, j'avais du mal. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai un peu pris mon pli. Et après, j'ai mis des grosses appréciations, genre 2-3 lignes. Je me dis, je suis prof de français quand même. S'il y a une personne qui doit faire des grosses appréciations, c'est moi. Donc je suis partie. Et puis pour les secondes, comme ils sont 36, j'avais du mal. C'est-à-dire que j'ai dû me préparer psychologiquement. J'avais peur parce qu'après, il faut bien relire les appréciations. Parce que si t'es fatiguée et que t'as fait des fautes, mais la honte intersidérale, c'est-à-dire que tout le monde, tous tes collègues le voient, le proviseur, les parents, enfin l'élève, là, c'est vraiment la honte. Donc c'est un peu stressant. Et non, c'est chiant, c'est très laborieux et je suis bien contente que ce soit passé. Trouver les mots justes. Au début, je t'avoue que c'est compliqué. En fait, j'avais écrit mes premières. J'ai écrit les premières appréciations et en fait je suis revenue après sur ces appréciations, je les ai changées. Parce que au début tu te sens bête, t'écris n'importe quoi et genre c'est un bon trimestre, le travail est sérieux, enfin tu te sens extrêmement idiot. Après Après, tu, je sais pas, tu prends un peu d'assurance et puis tu tentes. À un moment donné, j'ai tenté un. C'est une élève lumineuse. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, tu vois. Tu prends un peu tes aises, ce qui fait que les dernières appréciations étaient bien plus, comment dire, libres que les toutes premières. Du coup, j'ai réécrit les premières parce que je les trouvais pas assez bien.
La période des conseils de classe pour une prof, c'est une période assez chargée.
Oui, bah on m'avait prévenu. On m'avait dit, tu vas voir, la période avant Noël, c'est horrible parce que t'es fatigué, les élèves sont fatigués. Avec le conseil de classe, t'es encore plus fatigué parce que ça te prend énormément de temps. Tu dois remplir les bulletins, t'as pas le temps de préparer tes cours, t'as pas le temps de corriger tes copies. Donc c'est vrai que c'est une période compliquée. En plus, bah, t'arrives le matin, il fait nuit. Tu repars, il fait nuit et vraiment très nuit. C'est-à-dire qu'il a fait nuit à partir de 17h. Toi, tu sors du conseil de classe, c'est 20h30. Et encore, moi, j'habite à côté du lycée, mais pour ceux qui doivent en plus rentrer chez eux, enfin... Bon, c'est vrai que c'est très dur. Et ça, les gens, pareil, n'en ont pas conscience. Ils pensent pas que les conseils de classe... Mais c'est comme les réunions parents-prof. C'est des trucs que les gens oublient. On n'a pas que les cours devant les élèves. C'est, en fait, le temps qu'on passe devant les élèves, c'est une toute petite partie de notre travail. Et à côté de ça, il y a tout... Enfin, il y a un travail énorme. Même le temps qu'on va passer à s'envoyer des mails pour parler de telle ou telle organisation de devoirs, pour discuter de tel élève en salle des profs. Quand on est au lycée, en fait, on travaille même si on n'a pas cours devant les élèves.
Quand tu fais des conseils de classe comme ça, tu fais ce qu'on pourrait appeler des heures supplémentaires. Comment ça se passe niveau rémunération ?
Voilà, je suis pas du tout rémunérée pour mes conseils de classe. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, je te dirais si je vois une différence sur ma fiche de paie, mais ça m'étonnerait. Je pense que ça doit faire partie de... Bah, je sais pas, de mon quota d'heures, ou je sais pas, où ça compte pas. Enfin, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, mais... Non, bah, c'est comme quand tu discutes dans les couloirs avec un collègue pour parler d'un élève. C'est pas comptabilisé comme du temps de travail. Et pourtant, c'en est. Quand tu réponds aux parents par mail, quand t'envoies un truc à un élève le soir parce qu'il il t'a envoyé un mail sur son exposé, etc. Pareil, c'est pas comptabilisé. Mais de toute façon, c'est très difficile de compter les heures qu'on travaille, nous.
Quand t'es prof, t'es un peu prof non-stop.
Ah oui. Non, mais c'est très agaçant, d'ailleurs, pour les autres. Bon, déjà, je parle de mes cours à tout le monde. Tout le monde est au courant de tous mes élèves. Ils connaissent même leur nom. Et puis alors, dès que je fais un truc, je me dis « Ah, mais ça va être super pour la séquence 3, on va pouvoir faire ça, ça, ça. » Genre, je vais au cinéma, mais même, je vais voir Les Animaux Fantastiques. Je me dis « Ah, intéressant sur la montée au pouvoir d'un régime autoritaire et tout ça. » Et je vais me dire « Ah, bah, pour réfléchir sur les figures de personnages de romans, je pourrais faire ci, faire ça. » Enfin, c'est insupportable. Comme lorsque je vais au musée et je me dis, en fait, introduction de la séquence 4, tel tableau, tu peux jamais décrocher. C'est très très dur de décrocher.
Cette année, t'es prof stagiaire.
Oui.
Comment ça se passe niveau conditions de travail, salaire, horaire, etc.
Alors, en tant que prof stagiaire, j'ai donc un mi-temps. Donc j'ai 9 heures par semaine. Enfin, en tant que prof stagiaire agrégé, j'ai entre 7 et 9 heures normalement. Donc là, j'ai 9 heures par semaine et je touche un peu plus de 1 700 € net par mois.
Vis-à-vis du travail conséquent que tu as en dehors de tes cours en présentiel, si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu trouves, toi qui as déjà travaillé dans la restauration, l'été, des choses comme ça, comment tu évalues ce salaire ?
Alors, compliqué, parce que moi, j'avais jamais gagné autant. Donc, premier salaire, j'étais « Ouah, j'ai gagné 1 700 !»« J'ai plus de 1 000 euros sur mon compte !» Alors que j'ai toujours été en galère. Vraiment, moi, j'étais ultra contente. Après, mes collègues étaient super blasés à la cantine. Moi, j'étais « Ouah, je viens de me faire virer 1 700 € sur mon compte !» Trop contente. Et bon, pour d'autres collègues qui ont, par exemple, fait de la finance avant de devenir prof, pour eux, mais c'est minime. Mais vraiment, c'est le petit salaire de base... Moi, ça me fait plaisir. Après, effectivement, je travaille énormément. Mais je trouve pas que mon salaire soit trop faible, sachant que il est faible peut-être par rapport à mon niveau d'études et à mes heures travaillées aussi, parce que c'est mon salaire de toute l'année. Sachant qu'il y a les mois de juillet et août, je suis payée aussi, alors que je vais travailler moins. Donc c'est aussi parce que c'est égalisé. Pour que dans l'année, je touche 1 700 par mois, même les mois de vacances. Bon, c'est vrai que par rapport à mon niveau d'études, quand je vois des amis qui ont fait une école de commerce et qui sortent et qui gagnent beaucoup plus, beaucoup mieux leur vie que moi, je me dis, bon, c'est vrai que mon salaire n'est pas énorme. D'un autre côté, je ne me plains pas. Moi, ça me suffit. Bon, j'habite dans un petit appart, mais bon, ça me suffit. Et puis bon, après, je pense que je n'ai pas le travail non plus le plus difficile. Disons que pour avoir travaillé justement dans la restauration, je commençais à 6h, je me levais à 4h30. C'est des trucs que je fais plus aujourd'hui. Même si... Ou alors, disons que si je me lève très tôt, je fais quand même des choses qui sont plus intéressantes que servir un café, intellectuellement parlant, je veux dire. Donc, je me dis, j'apprends tous les jours. J'apprends parce que je peux me former moi-même, ce qui est génial dans mon boulot. Parce que quand je lis, je peux me dire, ah bon, c'est vrai que ça peut être du travail, mais d'un autre côté, ça me fait plaisir de relire le Père Goriot pour préparer un cours. Donc... Et puis avec les élèves, on en apprend beaucoup. Alors souvent, je râle gentiment sur eux, enfin, en parlant d'eux à d'autres gens. Mais en fait, c'est parce que ça fait partie des gens auxquels je pense le plus. Mes élèves, je les vois plus que mes parents. Du coup, tous les jours, j'essaye de m'améliorer. Mais c'est pas forcément facile.
Comment ça se passe pour l'instant pour les autres stagiaires, ces premiers mois de carrière?
Bah, ça dépend desquels. Il y en a pour qui c'est très dur. Il y en a qui ont pensé à démissionner, ça je te le dis. Hein. Il y en a qui sont dans des situations très compliquées, par exemple, qui n'ont pas la direction de leur côté. Qui ont vraiment les parents contre eux. La semaine dernière, il y en avait qui étaient pas mal déprimés. C'est-à-dire qu'on arrive, on se dit tous, ça va ? Oui, bah, fatigué, et en ce moment, c'est bof, bof, et on se dit tous, oui, bah, c'est ça. Mais même moi, là, je vois les cours que je fais en ce moment, mais c'est pas terrible. Quand je regarde les cours que je faisais à la rentrée de la Toussaint, je me dis, en fait, ils étaient mieux. Je me dis, ça veut dire que j'ai pas progressé ? Mais non, mais c'est aussi parce que je suis fatiguée, que la fatigue s'accumule, et que de petit à petit, bah, mes cours sont de moins en moins bien jusqu'aux vacances. Alors peut-être que début janvier, et encore, parce que les vacances de Noël, c'est pas les vacances les plus propices pour le repos. Il y en a qui commençaient un petit peu à craquer. C'est une période vraiment compliquée pour les profs en général, mais pour les stagiaires aussi.
Tu dis qu'il y en a certains qui ont pensé à démissionner. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'allait pas ?
Bah, parce que c'est dur, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de la tâche. Parce que justement, ils ont l'impression qu'on ne les aide pas suffisamment, qu'on leur demande trop. Il y en a beaucoup qui ont l'impression de donner énormément et finalement d'avoir très peu de reconnaissance. De la part de tout le monde, de la part des élèves, de la direction. Et puis, c'est aussi dur pour la famille. C'est-à-dire que moi, bon, j'habite pas avec mon copain, j'ai pas d'enfant, voilà. Mais il y en a, j'ai une collègue stagiaire, elle est mère de famille, donc elle est stagiaire, mais parce qu'elle a changé de boulot. Et elle dit, mais là, c'est parce que c'est mon mari qui s'occupe de tout, parce que moi, je suis toujours en train de bosser. Mais heureusement qu'il est là, sinon je pourrais pas... Je pourrais pas travailler et je sais qu'il prend sur lui pendant ce temps-là, mais il va pas pouvoir tout faire tout le temps. Mais moi, je suis toujours en train de travailler tout le temps quand je suis à la maison et je vois moins mes enfants. Donc, c'est vrai que pour les proches aussi, ça peut être compliqué d'avoir un nouveau prof dans la famille. Il y a beaucoup de démissions parmi les stagiaires et beaucoup de profs qui n'entrent jamais dans le métier. C'est-à-dire qu'on leur donne une classe pour septembre et ils n'y vont pas, ils ont trop peur. Et du coup, ils démissionnent juste avant la rentrée. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'ESP pendant la pré-rentrée fin août, le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est ne démissionnez pas. Donc tu te dis, ah bah super, je suis même pas encore en train de bosser qu'on nous demande de pas démissionner. Mais parce que c'est vrai que, par exemple, tu changes de boulot, tu décides de devenir prof, par exemple, parce que tu veux les vacances. Tout le monde se dit, ah, un métier sympa, c'est prof parce que t'as tes vacances. Et en fait, tu te rends compte que bah, ça demande du boulot et que c'est pas si facile que ça. Et donc, il y en a plein qui démissionnent pour avoir un métier un peu plus pépouze. Parce que c'est vrai que quand t'es prof, tu vois là, regarde, moi je pars en week-end. Mon copain, bon, il s'est couché hyper tard aussi. Mais le lendemain, bon, s'il a un peu endormi avec ses collègues, c'est pas trop grave, tu vois. Il va faire son boulot dans son coin, ça va marcher. Moi, si je suis un peu endormi devant les élèves, je me fais assassiner. T'es plus tranquille quand t'es dans un bureau, hein, c'est sûr. Tu peux sortir et arriver un peu fatigué au boulot et t'en sortir quand même.
Dans le prochain épisode, nous dresserons le bilan de ce premier trimestre de cours. Agathe a-t-elle toujours envie de faire carrière dans l'enseignement ? Le métier est-il tel qu'elle se l'imaginait ? Merci de votre fidélité. Pour continuer à découvrir les coulisses de la profession d'enseignant, abonnez-vous à notre chaîne Sillage. Nous sommes sur iTunes, SoundCloud et Spotify. Laissez-nous des étoiles et des commentaires, on les lira avec joie. Les 5 précédents épisodes sont à écouter dans l'ordre et sans modération sur vos plateformes préférées. Et pour ne pas louper la sortie de l'épisode 7, suivez-nous sur les réseaux sociaux, les EcoStart et Sillage Podcast. À très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.